Bonjour Paul Lancin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquel-Rohem, bonjour à tous.
La revue de presse, les hebdomadaires et les magazines et à la une de plusieurs hebdos français cette semaine, l'enlisement de la guerre à Gaza.
Oui, un conflit subi notamment par les enfants palestiniens. Cette population représente la moitié des Gazaouis et c'est à elle que s'intéresse Politis cette semaine avec ce titre « L'enfance assassinée ». Il y a d'abord ce témoignage de Bilal. Il a 15 ans, le jeune garçon est trop maigre pour son âge, trop fatigué également parce que les adolescents sont considérés comme plus agiles, plus résistants. Chaque jour, ils parcourent des kilomètres au milieu des tentes et des ruines pour trouver des aliments, de l'eau ou de quoi faire du feu.
La survie a désormais totalement pris le pas sur l'éducation.
Dans ce territoire où le taux d'analphabétisme était parmi les plus faibles au monde, autour de 2% selon l'UNICEF, 9 écoles sur 10 ont été rayées de la carte, soupir Politis. Un éducide enchérit le chercheur Ziad Majed pour qui les attaques israéliennes montre une volonté d'en finir avec le système éducatif. « On m'a volé ma vie », souffle Riyab, 15 ans également, qui rêvait d'université. « On m'a volé cette joie », fulmine pour sa part Allah dans le dossier du point « Où va Israël ?» qui revient aussi sur le sort des Gazaouis. À 23 ans, elle a fini par obtenir une licence de littérature sous les bombes et remplit ses journées de lecture, d'écriture et de musique pour ne pas sombrer.
Ces conséquences humaines sont celles de la guerre sans fin voulue par Netanyahou.
Le point grogne devant cette fuite en avant personnelle. Le Premier ministre israélien s'enferme dans une réalité parallèle, pensant qu'une majorité immense d'Israéliens dit « Bibi, n'arrêtez pas !» Et ce, alors même que la population rejette en fait grandement la politique de son gouvernement. Les sondages qui donnent sa coalition perdante au prochain scrutin, truqués et fabriqués de toutes pièces. Interrogé par l'Hebdo, l'ancien chef des renseignements de l'armée israélienne, Tamir Heyman, confie l'idée d'une victoire totale est illusoire. La raison pour laquelle l'exécutif ne veut pas la fin de la guerre, explique-t-il, c'est qu'elle entraînera l'organisation de nouvelles élections qui aboutiront à la chute de la coalition Netanyahou.
Le Premier ministre israélien, d'abord largement soutenu par Emmanuel Macron, avant une prise de distance.
Une trajectoire sinueuse tracée par le président français, comme le raconte le Nouvel Obs, avec notamment cette infographie qui tente d'établir une corrélation entre l'évolution du discours d'Emmanuel Macron sur ce conflit et celle du nombre de morts à Gaza. Fin 2023, il sert du dire Bibi, cher Bibi, et ce alors que 6000 personnes ont déjà été tuées à Gaza, puis évoque ensuite une coalition anti-Hamas dont il n'a parlé à personne. Des ambassadeurs français dénoncent dans une note interne le virage pro-israélien du président. Puis la sémantique change. À l'automne dernier, Emmanuel Macron prend aussi conscience qu'une reconnaissance de l'État de Palestine lui permettrait de laisser une trace dans l'histoire. Désormais, il s'est engagé trop loin pour reculer, estime le chercheur Jean-Paul Chagnolo. Si la séquence qu'il a enclenchée n'aboutit pas, sa parole disparaîtra.
Et à l'agenda du président français également, la question de la protection des océans.
Avec l'ouverture demain de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, à cette occasion, Emmanuel Macron lance donc un appel à la remobilisation sur l'écologie dans plusieurs titres, dont le Parisien dimanche. Le dirigeant français a connu des marées hautes et des marées basses, tente le journal de la capitale, mais estime ne pas avoir de leçons d'écologie à recevoir. Dans le sud-est de la France, entouré d'une cinquantaine de chefs d'État, il n'y en a jamais eu autant, se félicite-t-il, il ratifiera un texte sur l'interdiction de la pêche illégale et plaidera pour un renforcement des aires marines protégées et un moratoire d'exploitation des grands fonds marins.
Car ces abysses font l'objet de convoitises de plus en plus insistantes.
Le Nouvel Obs part d'un exemple, celui de Gérard Barron, sulfureux chef d'entreprise australien à la tête d'un empire minier. Et pour le Elon Musk des abysses, comme il est surnommé, l'horizon s'est subitement éclairci avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, le président américain ayant en effet signé en mars un décret autorisant l'extraction de minéraux jusque dans les eaux internationales. Une nouvelle ruée vers l'or, jubile même une agence aux mains de l'administration Trump qui pourrait doper le PIB américain de 300 milliards de dollars et créer 100 000 emplois en 10 ans. La Chine aussi multiplie les campagnes exploratoires dans le Pacifique, souligne l'Express qui dédie aussi ses pages géopolitiques à la guerre des abysses. un terrain qui, par son opacité, favorise les modes d'action offensifs, décrypte encore l'Express, notant au passage que l'armée de la France, qui possède l'un des plus grands domaines maritimes avec ses territoires d'outre-mer, se dote d'outils de surveillance de pointe, comme ce drone pouvant plonger à 6000 mètres de profondeur.
Sauf que ses appétits pour le cobalt, le manganèse ou le cuivre sous-marin font craindre le pire aux défenseurs de l'environnement.
Ah oui, pas sûr que Mère Nature s'en réjouisse, grince le nouvel Ops. L'océan joue en effet un rôle crucial de régulation du climat, avec un quart de nos émissions de CO2 captées chaque année. Le chercheur Bruno David craint qu'une fois remués, les sédiments qui tapissent le fond des mers ne relarguent dans l'atmosphère le CO2 stocké, sans oublier que la vie foisonnante abritée par les fonds marins risque d'être grandement perturbée.
Paul Lonsin-Spinelli, merci beaucoup.